De toute façon, il va falloir qu'on se quitte parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous êtes très loin. Vous avez dû mettre le haut-parleur ou vous vous êtes éloigné. Je ne vous entends plus. Thelma. Non, mais vous êtes très loin. Je ne sais pas où vous êtes partie. Ça y est, vous êtes revenue. Oui, Thelma, il faut faire un choix et puis dire à ces hommes, en tout cas, qu'ils arrêtent d'impliquer les enfants. Là, dans ce... Voilà.
Je vais déjà
bon courage. Thelma, je suis désolée, mais vous pourrez me rappeler quand vous aurez rencontré Jacques. Mais là, on arrive à une heure et je dois vous laisser parce que c'est la fin de cette émission. Bonne soirée à vous. RTL. RTL, il est 1h.
Jusqu'à 2h.
Entrée dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch, la rediffusion.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le sentier d'un petit noble breton désargenté qui a combattu le plus souvent à pied. Oui, je vais vous raconter comment ce simple chef de bande deviendra connétable de France, soit le plus haut personnage du royaume après le roi. Ce petit bonhomme était un tacticien génial qui, avec Charles V, a libéré la France des Anglais. Mais avant, je vous préviens, heureusement qu'on est à la radio, car notre héros du jour, alors comment vous dire, c'est pas Lancelot. Oui, il est moche. Imaginez une sorte de batracien qui se battrait comme un ours. Voilà, vous avez le tableau ? Ben c'était lui. En plus, son truc à lui, c'était pas les grandes batailles télégéniques, non, c'était plutôt les actions commando, le siège des châteaux forts, et plus que tout, les embuscades dans les profondeurs de la forêt de Brocéliande. Oui les amis, croyez-moi, ça va batailler ferme aujourd'hui. Alors, entrez dans l'histoire de Bertrand du Guesclin sur RTL.
RTL, entrez dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch.
La tempête qui s'abat dans l'ouest de la France en cette nuit de décembre 1370 paraît aussi infranchissable qu'un rempart. Pourtant, des ombres se faufilent sous les trompes d'eau. Sans lumière, sans flambeau, ça avance à pas de loup dans la pénombre. Les chevaux dérapent dans la boue. On entend des plaintes, on étouffe, des jurons. Qui est assez cinglé pour effectuer cette marche nocturne et forcée de 25 km à travers la lande, sous les bourrasques glacées? Eh bien, le chef des armées du roi, lui-même. Et à l'aube, du côté de Pont-Vallin, il arrive aux abords du bivouac des Anglais. Les sentinelles ennemies n'ont rien vu, et il est déjà trop tard. Lorsqu'elles entendent sortir ce cri de la brume
« Notre-Dame, Guesclin !»
Déjà, les lames éventrent les tentes, taillant leurs occupants, mettant en fuite les rescapés, encore abrutis de sommeil. La victoire est totale pour Bertrand du Guesclin, connétable de France. L'audace, la vitesse, la surprise, c'est la signature de ce grand chef. Et avant de vous parler de la décennie qui va suivre et qui va lui permettre d'inverser le cours de la guerre de Cent Ans, partons en Bretagne, là où tout a commencé. Précisément, au manoir de la Motte-Bron, entre Rennes et Dinan. Nous sommes dans une famille de moyenne noblesse, issue d'une lignée prestigieuse, mais, disons-le tout de suite, complètement fauchée. Aux alentours de 1320, le seigneur local Robert du Guesclin et son épouse, Jeanne de Malmain, accueillent leur premier enfant, l'aîné d'une portée de 10. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les parents cachent leur joie. Sa mère, une femme aussi belle que dure, refuse d'approcher cet enfant qu'elle trouve extrêmement laid. Faut dire que le petit Bertrand ne rend pas les choses faciles. Il a le front bombé, un nez minuscule, une bouche de batracien, les jambes courtes, les épaules massives qui soutiennent un cou anormalement épais. En clair, il est moche. Il est très très moche. En plus, il est tout noirot. Il a la peau étonnamment foncée, sans lumière. Il est sinistre, pour ne pas dire repoussant. Du coup, on ne tolère pas sa présence à la table commune. Et même les domestiques lui donnent des taloches en douce. Bertrand du Guesclin, c'est définitivement pas l'itinéraire d'un enfant gâté. Mais à l'âge de 6 ans, du Guesclin renverse la table. Bon, pour le moment, au sens propre. En effet, très en colère que ses cadets bafouent sa place d'aîné, il renverse un jour la lourde table couverte de nourriture. Alors là, on se dit qu'il va se prendre une bonne baffe, mais une diseuse de bonne aventure qui était dans les parages intervient, et elle est formelle.
Je vous jure sur Dieu que ce garçon surpassera en gloire tous ses ancêtres. Sa renommée ira jusqu'à Jérusalem. Il sera le sauveur du royaume de France.
Elle l'a vu, elle en est sûre, il y a quelque chose qui brille en lui. D'ailleurs, très vite, il devient chef de bande. Avec des fils de paysans, il passe très peu de temps à l'école et beaucoup à se bagarrer dans les bois. À tel point que son père Robert, seigneur de Bron, interdit à ses sujets de laisser traîner leurs enfants avec son propre rejeton, sous peine d'amende. Courageux, Bertrand rêverait de devenir chevalier. Mais pour sa famille, il n'en est pas question, ça coûterait une fortune, et puis il est trop moche.
Eh bien, qu'à cela ne tienne,
confie Bertrand à ses amis.
Puisque je suis laid, eh bien, je serai hardi.
Et bientôt, Bertrand aura l'occasion de prouver sa valeur. Nous sommes le 4 juin 1337 et des joutes sont organisées à Rennes. Bertrand a 17 ans. Son cousin lui a prêté une misérable panoplie de chevaliers. En arrivant dans la capitale bretonne, Bertrand est subjugué par le son des trompettes, par les écus dorés qui scintillent, les bannières qui claquent au vent. À la tribune, les jantes d'âmes sont ravissantes. Devant tout ce faste, Bertrand se sent un peu tarte avec sa dégaine de petit écuyer montée sur un cheval de labour. Il baisse alors le bassinet de son home, préférant cacher son visage. Première joute. Dans son couloir, Bertrand éprend son cheval, ajuste sa lance et vise son adversaire. Et là, quel choc, dans le mille. Le cavalier fait un vol plané et s'écrase à terre inconscient. Du Guesclin, vainqueur par chaos. Au suivant. Ainsi, 14 compétiteurs se succèdent et tous sont envoyés au tapis par ce mystérieux écuyer dont on ne voit pas le visage. Et lorsque le 15e adversaire se lance face à lui, Bertrand fait soudain un brusque écart. Une clameur s'élève dans le public. Mais pourquoi épargne-t-il cet adversaire? Pourquoi refuse-t-il le combat? Eh bien, tout simplement parce que Bertrand a reconnu son père, Robert du Guesclin. Bertrand arrête son cheval, soulève son home et s'exclame
« Père, je suis ton fils. »
Il y a un petit côté Star Wars là, non? En tout cas, c'est une belle réconciliation entre Jedi, entre chevaliers, pardon. Car oui, Robert est alors impressionné par la bravoure de ce fils qu'il a tant maudit. Et ça tombe bien, car ça va pas tarder à péter dans la région. Oui, il faut que je vous dise maintenant deux mots sur la situation en Bretagne à l'époque. À la mort du duc de Bretagne Jean III en 1341, deux prétendants réclament le poste. Jean de Montfort et Charles de Blois. Jean de Montfort fédère les barons de l'Ouest, encore imprégnés de l'héritage celtique. C'est la Bretagne bretonnante. Charles de Blois, lui, est le patron des territoires de culture gallo-romaine qu'on désigne comme la Bretagne française. Et c'est cette famille de Blois que le clan du Guesclin soutient. Ah bah oui, hein, ils sont tout près de Rennes. Et Rennes, c'est plutôt côté gallo que côté bigoudin. Et cette guerre de succession pour le duché de Bretagne va être prise dans le tourbillon de la guerre de Cent Ans. Guerre de Cent Ans qui commence aussi par un problème de succession. En bref, le roi d'Angleterre, Édouard III, est aussi duc d'Aquitaine. À ce titre, il est donc le vassal du roi de France. Ce roi de France, c'est Philippe VI. Et un jour de 1337, Philippe VI trouve un bon prétexte pour confisquer la Bretagne à ce vassal franchement encombrant. Là, évidemment, Édouard III, roi d'Angleterre, voit rouge. Non seulement il se rebelle contre le roi de France, mais il va carrément revendiquer la couronne de France, rien que ça. Et là, c'est parti pour des bagarres à coups d'arbres généalogiques. L'Anglais est le petit-fils de l'ancien roi de France Philippe le Bel par sa mère, alors que Philippe VI, lui, n'est que le neveu. Là, Angleterre, one point. Oui, mais alors les Français répondent par une vieille coutume mérovingienne oubliée, la loi salique. Ah oui, on est désolé, messieurs les Anglais, mais en France, la couronne ne se transmet pas par les femmes. Voilà, alors désolé Édouard, mais le fait que tu sois le petit-fils de Philippe le Bel par Isabelle, hein, par la maman, ça compte pas. France, one point. Match nul, un partout, et là, les pénaltys, eh ben, ça sera la guerre. Chacun doit choisir son camp. Ainsi, en Bretagne, le territoire est clairement divisé en deux. Jean de Montfort s'est rangé sous la bannière anglaise. Charles de Blois demeure fidèle au roi de France. Et qui va-t-on retrouver pour faire le coup de poing à ses côtés ? Du Guesclin, bien entendu.
Dans un instant, retour d'entrée dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts.
Serveuse dans le diner accoudée au motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Qui danse? Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Quelle que soit la tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent, pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent, sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Avec Laurent Deutsch sur RTL.
Pendant que les Anglais dévastent méthodiquement la partie orientale de la Bretagne, Bertrand leur résiste. En vrai maquisard, il a constitué une petite bande qui harcèle l'ennemi. Ils agissent au cœur de la forêt de Brocéliande, celle de la légende du roi Arthur. Bertrand et ses hommes multiplient les raids contre l'occupant. La méthode est simple, ils frappent fort et ils décampent. Autant dire que les Anglais vont être agacés de se faire systématiquement trucider au détour d'un chemin creux sans pouvoir répondre. Et très vite, ils le surnomment le Dog Noir de Brocéliande. Bon, alors, les petites embuscades, ça va un moment, mais Bertrand veut frapper plus fort. Nous voici en 1350, à proximité du château de Grand Fougeret. Le sourire en coin, du Guesclin scrute cette forteresse défendue par 9 tours et entourée de douves. Avec sa bande, ils ne sont que 60. Mais Bertrand a un plan. À ses compagnons qui font rarement 3 repas par jour, il dit
« Amis, si vous m'en croyez, je vous ferai tous riches. Nous souperons dans ce maître donjon aujourd'hui et je vous y régalerai de moutons gras. »
Bertrand est décidément très confiant, car en fait, il a un indique dans la place. Et il a appris que le gros de la garnison est de sortie et qu'au château, on a besoin de bois. Du coup, lorsque les sentinelles voient débarquer d'innocents porteurs de bûches, elles abaissent aussitôt le pont-levis. Malheureux. Tirant sa hache de son fagot, le capitaine s'élance en criant
« Guesclin, en avant! Il y a du bon vin ici !»
Et après avoir liquidé les gardes, les vainqueurs font un sort aux gardes-mangers. Quatre ans plus tard, nouvel exploit au château de Montmuran. Un maréchal ami y donne une réception. Bertrand a certes un nez ridiculement petit, mais il a aussi de très longues oreilles et il a eu vent de l'arrivée imminente d'une colonne anglaise venue gâcher le banquet. Il les laisse approcher et lorsqu'ils arrivent à portée de tir des archers qu'il a dissimulés sur le chemin, il lance le signal
« Guéclin, avec moi !»
C'est une giboulée de flèches qui s'abat sur les Anglais. Et ensuite, c'est du Guéclin qui surgit et qui mène lui-même une lutte au corps à corps. La victoire est totale. Et du Guéclin commence à avoir une sacrée réputation. Chevauchons vers Rennes à présent. En 1356, la ville est assiégée par les Anglais du duc de Lancastre. Bertrand vole à son secours et découvre une population affamée. Malin, il mijote un stratagème. Il attend le moment propice. Ce stratagème, c'est une véritable opération d'intoxication, consistant à faire croire aux Anglais que l'armée de Charles de Blois se dirige vers leur position. Immédiatement, les troupes de Lancastre partent affronter cet ennemi imaginaire. Et pendant ce temps, Bertrand dévalise leur campement et rapporte dans la ville des charrettes pleines de victuailles.
À table, les amis, c'est les Anglais qui régalent.
Mais un matin, Bertrand apprend que son frère, Olivier, archer à cheval, a été fait prisonnier devant Dinan par Thomas de Canterbury, un chevalier d'outre-Manche. J'espère que vous n'avez pas oublié que Bertrand du Guéclin, c'était l'aîné de la famille. Il doit voler au secours de son petit frère. Et il va régler cet affront personnel en provoquant l'Anglais en duel. Bon là, vous imaginez la suite. Thomas de Canterbury est mis KO par Bertrand, qui lui tape tellement dessus que les spectateurs sont obligés de s'interposer. Victorieux, Bertrand repart avec son frère sous le bras, les armes et le cheval du vaincu, et 1000 florins de dédommagement. Ah oui, du Guéclin, quand il vient, c'est jamais pour rien. Et en réalité, il a gagné bien plus ce jour-là. En effet, une vicomtesse a assisté à son duel. Elle s'appelle Tiphaine Raguenel. C'est une astrologue très réputée qui lui avait prédit l'issue du combat. À l'écuyer venu lui rapporter cet oracle, Bertrand aurait répondu avec la finesse qu'on lui connaît
« Celui qui se fie à une femme n'est guère avisé, car en une femme, il n'y a pas plus de sens qu'en une brebis. »
En résumé, il n'a pas été séduit. Mais pourtant, Tiphaine, décrite comme la plus sage des dames du pays, s'éprend de cette brute quasi illettrée. Et devenu soudain philosophe, Bertrand du Guéclin en tire une conclusion qui sera sa devise.
Ah bah décidément, le courage donne ce que la beauté refuse.
En attendant le mariage, il rentre triomphalement à Rennes. Et il défend tellement bien la cité que de Guerlas, Lancastre lève le siège à l'été 1357. Dans la foulée, le Breton réalise enfin son rêve de jeunesse. Non, pas le mariage avec Tiphaine de Raguenel, mieux que ça pour lui. Un genou à terre, il sent la lourde épée se poser sur son épaule boursouflée. Ça y est, il est adoubé, chevalier. À présent, sa renommée dépasse la Bretagne. Même le dauphin Charles a repéré ce capitaine hors du commun à qui il verse désormais une rente viagère de 200 francs. Il va avoir besoin de gaillards comme lui pour remettre d'aplomb un royaume en pleine crise. Oui, car clairement, en ce début de guerre de 100 ans, les Anglais ont pris l'avantage. Ils ont mis la pâtée aux Français à Crécy en 1346, rebelote 10 ans plus tard à Poitiers, où le successeur de Philippe VI, Jean II, a carrément été fait prisonnier par les Anglais. Et oui, parce qu'ils se battaient pas de la même manière. En gros, nos chevaliers français pleins de panache n'ont pas encore compris la différence qu'il y avait entre un tournoi et la vraie guerre. En face, eux, les Anglais, ils l'ont bien compris. Surtout, leurs archers, qui déciment systématiquement la fine fleur de la chevalerie française. Résultat, pendant que son papa Jean est retenu dans une prison dorée à Londres, c'est le dauphin Charles qui assure la régence.
La vie de Bertrand du Guesclin revient tout de suite dans Entrer dans l'histoire sur RTL. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker.
Laurent Deutsch sur RTL.
Entrez dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Charles a de gros soucis. D'abord avec les routiers. Et là, fidèles auditeurs d'RTL, oubliez Max Meynier qui proclamait sur nos ondes que les routiers sont sympas. Non, je vous assure qu'à l'époque, ils n'étaient pas sympas. Pas du tout. Et le problème, c'est que pendant les trêves, hein, entre deux batailles, eh bien ces guerriers étaient au chômage. Alors pour s'occuper, ils écumaient les routes du royaume, d'où leur nom de routiers, en pillant tout sur leur passage. Sans foi ni loi, je vous dis. Du Guesclin est donc engagé par le régent pour mettre un peu d'ordre dans l'Ouest. Mais pas de peau, en janvier 1361, c'est à son tour de tomber dans une embuscade. Les ravisseurs réclament une rançon de 30 000 écus que le roi de France paye. Libéré, il reprend du service et cette fois, il enchaîne les succès du Perche à la Bourgogne. En retour, il accumule les récompenses et les titres. Bon, entre-temps, il a déjà la quarantaine au compteur. Alors, c'est très bien de cumuler les domaines, mais il serait peut-être temps pour Bertrand de s'y poser un peu pour fonder un foyer. Et comme Tiphaine de Raguenel n'est plus toute jeune non plus, il serait temps de se marier. C'est donc ce qu'il fait en 1363. Bertrand et Tiphaine. Ouais, enfin c'est plutôt la belle et la bête. Il s'installe au Mont-Saint-Michel. Bertrand fait bâtir une jolie maison qui domine la baie. Avec cette vue magnifique, sa tendre moitié pourra étudier les étoiles. Faut savoir qu'à l'époque, une astrologue a autant de prestige que nos astronomes modernes. Et voilà notre Bertrand quasi illettré qui s'émerveille devant la culture de sa femme. Il aime être à ses côtés. Enfin, même si c'est rarement plus de 8 jours d'affilée. Ben, c'est ça le problème d'avoir un mari toujours en déplacement professionnel. Et ça n'aide pas non plus à faire des bébés. Mais si elle ne lui donne pas d'enfants, en revanche, elle lui donne des conseils. Tiphaine lit dans les astres et lui assure
« Tant que vous ferez ce que je vous dis, vous ne serez pas vaincu et vos gens ne seront pas déconfits. »
Et à quoi du Guesclin aurait répondu
« Truffrie !»
Ce qui veut dire en gros
« C'est des conneries !»
Oui, toujours aussi distingué Bertrand. De toute façon, il n'a pas vraiment le temps de prendre des cours de maintien, car Édouard III, le roi d'Angleterre, s'est à présent allié avec le roi de Navarre, Charles le Mauvais, pour mettre la pagaille en Normandie. Comme Charles le Mauvais est aussi censé être vassal du roi de France, du Guesclin est dépêché pour lui confisquer ses terres. Ah bah oui, on a rompu l'hommage, on confisque les terres. C'était comme ça au Moyen-Âge. Et revoilà Bertrand sur les routes. En 1361, c'est maintenant en tant que lieutenant de Normandie, d'Anjou et du Maine qu'il débarque dans le Vexin. Pour s'emparer de Mantes, pas encore jolie, hein, Mantes la jolie, nouveau coup de bluff. Cette fois-ci, il déguise ses hommes en vignerons. Vous connaissez la suite, il réussit à rentrer dans la place et une fois à l'intérieur, à mort, tous les Navarrais. La visite du Vexin continue avec Melan, mais comme ses propres mercenaires n'ont toujours pas reçu leur solde depuis des lustres, il les laisse se rembourser sur la ville. Ça, c'est assez rare chez du Guesclin, et cela entache une réputation jusqu'ici très honorable. Mais c'est aussi un message très fort envoyé au prochain sur la liste.
Avec moi, toute résistance sera vaine et sévèrement punie.
Melan est saccagé. Mais en revanche, le donjon résiste. Et même, les assiégés narquent du Guesclin. Ils se moquent de lui. Alors, puisqu'ils le prennent sur ce ton, du Guesclin va leur réserver un traitement spécial. Il multiplie les assauts, pas parce qu'il envisage sérieusement d'escalader la forteresse, mais pour faire du bruit. Car le bruit des échelles et des armures couvre le tapage que font ces sapeurs. Et qu'est-ce qu'ils font, les sapeurs? Ils creusent un tunnel sous les fondations du donjon. Au dauphin Charles qui vient lui rendre visite, il lui annonce fier de lui.
Sire, vous allez assister au spectacle.
Il donne alors ses ordres. Et boum, tout un pan de muraille qui ne reposait plus sur rien s'effondre. La seconde d'après, ses soldats se précipitent dans la brèche pour massacrer tout ce qui bouge au sein du donjon. Face aux Anglais, Le flair de Bertrand du Guesclin lui permet de s'adapter à toutes les situations.
Dans un instant, retour d'entrée dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. Same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for the last time. It shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all.
Dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Avec Laurent Deutsch sur RTL.
Regardez le village de Cocherel, par exemple, toujours dans le Vexin. Nous sommes le 16 mai 1364. Face à lui, il a le captal de Buch, un capitaine au service de Charles le Mauvais. Retranché en haut d'une colline, le captal surveille les troupes du Français. Du Guesclin ne bouge pas. On est à découvert. Les Anglais, comme toujours, ont des archers. Hein, on va pas aller se faire dégommer comme à Crécy ou à Poitiers. Alors, Bertrand laisse poireauter ses soldats en plein soleil. Je peux vous dire que ça marine sous les cuirasses. Et non seulement il ne lance pas l'assaut, mais il ordonne même la retraite de ses troupes. Dans le camp d'en face, on saute sur l'occasion et on lance les Anglo-Navarrais à la poursuite des Français. Et voilà ce qu'attendait Bertrand. Arrivé dans la plaine, il fait soudainement pivoter son arrière-garde et il prend l'ennemi à revers. La mêlée est furieuse. Les épées embrochent, les haches démembrent. C'est un corps à corps terrible. Et tout à coup, Les Navarrais entendent une trompette derrière eux. Ouf, des renforts anglais. Ah bah non, pas du tout. Bertrand savoure ses quelques notes. Car lui, il sait d'où vient cette musique. Ce sont les 200 cavaliers qu'il a camouflés et qui surgissent au moment décisif. Et à nouveau, la victoire est totale. Peu après, il envoie un messager à Reims. Alors là, vous allez me dire, pourquoi à Reims, hein, on était dans le Vexin. Eh bien, parce qu'après la mort de Jean II, le dauphin Charles s'apprête à s'y faire couronner. Bertrand offre deux beaux cadeaux pour fêter l'événement. Le captal de Buch qu'il a fait prisonnier et la victoire totale contre Charles le Mauvais. En récompense, le nouveau roi Charles V lui attribue le comté de Longueville. Mais le nouveau comte n'a pas vraiment le temps de jouir de son fief. La guerre de Bretagne a repris et il doit intervenir à Auray. En face, il y a des costauds. C'est la Ligue des champions des combattants. Avec par exemple le breton Olivier de Clisson. Et malheureusement, Du Guesclin doit laisser à Charles de Blois l'honneur de diriger les opérations. Bertrand a beau lui recommander la prudence et l'attente, Charles de Blois fonce dans le tas. Hélas, Bertrand le savait, Tiphaine lui avait dit. Elle avait consulté les astres, le ciel était contre lui. C'est une défaite terrible. Charles de Blois est tué et Bertrand du Guesclin est fait prisonnier.
La vie de Bertrand du Guesclin revient tout de suite dans Entrer dans l'Histoire sur RTL.
Laurent Deutsch sur RTL.
Entrez dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Charles V a trop besoin des services de du Guesclin pour le laisser s'empâter en détention. Il se décide donc à payer une rançon énorme de 40 000 francs pour le libérer. 40 000 francs à l'époque, c'est considérable. C'est l'équivalent de 155 kilos d'or. Gros transfert pour l'époque. Bertrand, il va pas falloir décevoir le roi. Nouvelle mission, l'Espagne, où sur le trône de Castille règne Pierre le Cruel. Oui, après Charles le Mauvais, Pierre le Cruel. On est très loin des princes charmants. En tout cas, c'est un surnom bien trouvé pour un roi pas très chrétien qui est allié avec les Sarrasins, les Anglais et les Navarrais. En un mot, un ennemi du royaume de France. La mission de du Guesclin consiste à faire d'une pierre deux coups. Vous vous rappelez des routiers? Ces mercenaires qui pillent dès qu'on arrête de les employer. Alors, autant s'en débarrasser en les expédiant en Espagne pour guerroyer contre Pierre le Cruel. Pas assez facile à dire, mais il reste à les convaincre. Et du Guesclin, qui est peut-être illettré, il sait leur parler à ses soudards. Il parle la même langue. Écoutez-le plutôt.
Allez les gars, pour Dieu, amendez-vous. Allez vous battre contre les païens. Je vous ferai tous riches si vous suivez mon conseil. Et vous aurez le paradis quand vous mourrez.
Pour cette mission, Bertrand embarque avec lui son frère Olivier et fait ses adieux à Tiphaine. Il lui fait un petit béco.
Au revoir ma chérie. Allez, je t'aime, hein, je t'aime. Maintenant, faut me laisser. Au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai emporté la vaisselle en or. C'est pour payer les mercenaires. Allez, bisous. Tu m'en veux pas, hein, je t'écrirai une carte postale. Et puis toi, regarde bien les étoiles. Hein, je sais que t'adores.
L'expédition en Espagne est une marche triomphale pour du Guesclin. Partout, les troupes de Pierre le Cruel déguerpissent. Bertrand entre facilement dans Burgos, Tolède et même Cordoue. Le Breton y est célébré en héros. Et là, je sais pas quoi, ça doit être le climat, ça doit être le soleil, ça doit être l'Andalousie. Bertrand tombe amoureux. Oui, il va tomber amoureux d'une des suivantes de la reine Jeanne de Castille, Doña de Soria. Et il aura même deux enfants avec elle. Là encore, pas le temps de s'attarder, car Pierre le Cruel a fomenté sa revanche. Il se ligue à présent avec le Prince Noir, encore un qui ne devait pas être commode. En fait, sous ce surnom de Prince Noir, se cache le fils d'Édouard III, le roi d'Angleterre. Et c'est un grand stratège, ce Prince Noir. Mais aussi, une vieille connaissance de Bertrand, qui a déjà eu affaire à lui. Il connaît sa valeur militaire et se prépare à l'affronter à Nájera, le 3 avril 1367. Sauf qu'une fois de plus, le patron, ça n'est pas du Guesclin, mais le roi de Castille, Henri, l'allié des Français. Là encore, du Guesclin l'appelle à la prudence. Mais non, le roi de Castille préfère jouer les chiens fous. La sanction est immédiate, la défaite. Et Bertrand est de nouveau fait prisonnier. Il va encore falloir passer à la caisse, sachant que maintenant, sur le marché de la rançon, la cote du capitaine du Guesclin a explosé. L'addition monte cette fois à 460 kilos d'or, dont Charles V verse une bonne partie. Enfin libre, il retourne en Castille. Pierre le Cruel s'est maintenant allié avec l'émirat de Grenade. Du Guesclin prend les opérations en main et en mars 1369, au terme d'une campagne éclair, il écrase Pierre le Cruel et le fait prisonnier à son tour. C'est la revanche et la gloire. Alors par contre, beaucoup moins glorieux, oui j'ai envie de dire carton rouge, le roi de Castille, Henri, déboule sous la tente du prisonnier Pierre le Cruel et le poignarde à mort. Non, pas sympa parce qu'en plus, les deux rivaux étaient demi-frères. Donc tu vois, c'est presque une affaire familiale. Non, c'est pas cool. Là, c'est pas les riches heures du Moyen-Âge. Tu vois, tu comprends qu'après on peut dire ouais, le Moyen-Âge était quand même un peu moyenâgeux, quoi. C'était un peu sombre. Là, voilà. Là, c'est une preuve éclatante. Là, il n'y a rien à dire. Je ne peux que le reconnaître. Non, restons sur une note plus solaire, plus joyeuse. Et retrouvons Bertrand, qui se dit que lui, il va enfin pouvoir jouir de ses domaines espagnols et surtout de la compagnie de sa douce Doña de Soria. Eh ben non, c'est raté. Charles V lui envoie messager sur messager pour le rappeler à lui. Il lui écrit notamment que les Anglais poussent dans l'ouest de la France et qu'il a grandement besoin de ses services. Ainsi, C'est le cœur lourd que Bertrand du Guesclin repasse les Pyrénées, laissant derrière lui son amour et ses deux enfants qu'il ne verra pas grandir. Le temps qu'il arrive, Charles V a déjà lancé les opérations. Il a récupéré le Périgord, le Poitou et le Ponthieu. Ce roi de France, Charles V, n'est pas surnommé le sage pour rien. Assez chétif, on le voit plus souvent tenir un bouquin qu'une épée. Mais parfaitement lucide sur la situation militaire, il sait que les grandes batailles finissent toujours mal pour les Français. Lui recherche l'efficacité. Il veut une guerre d'usure, d'action commando. Il veut fatiguer les Anglais, qui après tout ne sont pas sur leur sol. Voilà pourquoi il rappelle auprès de lui celui qu'on pourrait définir comme l'ancêtre de nos bérets verts. Cet ancêtre, c'est Bertrand du Guesclin, qui arrive enfin pour s'agenouiller devant le roi le 2 octobre 1370. Du coin de l'œil, Bertrand voit Charles faire mine d'interroger la cour. L'assistance est unanime à Bertrand. Livrez-lui l'épée. S'il est connétable, les Anglais seront grévés. Le Breton se saisit alors de l'épée à poignée d'or et émaillée de fleurs de lys qu'on lui tend. Il est à présent connétable, le chef suprême de l'armée du roi. Peut-être qu'il repense alors à la diseuse de Bonaventure, qui, lorsqu'il était enfant, lui avait prédit un destin exceptionnel. À lui, le gosse rejeté, moche, qui est devenu le second personnage du royaume de France.
La vie de Bertrand du Guesclin revient tout de suite dans Entrer dans l'Histoire sur RTL.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est des ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Oh. Toi ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Sur RTL.
Entrée dans l'histoire de Bertrand du Guesclin.
Bertrand du Guesclin, connétable de France. Là, c'est l'électrochoc. tout le monde veut s'enrôler à ses côtés, y compris d'anciens adversaires, comme Olivier de Clisson. Tout à sa gloire, Bertrand passe quand même rapidement chez lui pour prendre quelques affaires et saluer Tiphaine. Non, il lui a pas rapporté de souvenirs d'Espagne, ça c'est pas sympa. Et en plus, comme convenu, elle lui a bien préparé la somme nécessaire qui lui permettra de payer les soldats. Il lui refait un petit béco, hein ?
Bon bah chérie, je m'attarde pas, hein, je suis pressé.
Et il repart pour aller traquer l'ennemi. Après avoir mis en déroute les Anglais à Pont-Valin, comme je vous l'ai raconté plus tôt, ils foncent ensuite sur la Loire. Ils déferlent sur l'Anjou, la Saintonge, le Poitou et l'Angoumois. C'est une bourrasque. Les places fortes tombent les unes après les autres. Au cours de la décennie, ils reconquièrent tout le sud-ouest. Sa stratégie est méthodique. S'emparer d'abord de petits villages, leur proposer de se rendre avec les honneurs. Mais attention, il ne faut pas qu'on joue trop longtemps avec ses nerfs. Car en cas d'hésitation ou de résistance, il peut aussi faire un exemple et passer tout le monde au fil de l'épée. Une fois les campagnes soumises, les grosses villes sont ainsi isolées et surtout terrifiées. Et preuve que cela fonctionne, La Rochelle et Poitiers se rendent sans combattre en 1372. Cette année-là, Du Guesclin enchaîne les victoires. Mais pendant qu'il guerroie dans le Poitou, Tiphaine, sa femme, meurt. Un triste destin, vous vous rendez compte ? 10 ans de mariage, passé à attendre un époux qui risquait sa vie en permanence et qui a donné la vie dans d'autres foyers. Et là encore, Du Guesclin ne s'apitoie pas trop longtemps, car un an après, notre gaillard est déjà remarié. Elle s'appelle Jeanne de Laval, une jouvencelle de 30 ans de moins que lui, issue d'une très grande famille bretonne. Bah tiens, la Bretagne, parlons-en. Depuis la mort de Charles de Blois, le traité de Guérande, signé en 1365, a reconnu Jean de Montfort comme duc de Bretagne. Ça y est, la succession est réglée. Mais lorsque Charles V apprend que celui-ci a conclu une nouvelle alliance avec Édouard III, il envoie les forces spéciales. Hein, les bérets verts, c'est-à-dire Du Guesclin, qui saute sur la péninsule et reprend la plupart des places fortes. Parfois avec la force, parfois avec la ruse, comme à Niort, où les gardes lui ouvrent poliment les portes, car avec ses hommes, il s'était déguisé en Anglais. Mais les Anglais, ils ont toujours pas renoncé. En août, le fils d'Édouard III, le duc de Lancastre, débarque à Calais. Il traverse le royaume dans une chevauchée terrible jusqu'à Bordeaux, stratégie dont raffolent les Anglais et qui consiste à tout ravager pour plonger le pays dans le chaos. Avec Clisson, Du Guesclin définit sa stratégie.
Ok, les Anglais aiment chevaucher. Eh ben, on va les faire cavaler, mais ils courront le ventre vide. Car nous, de notre côté, on va leur couper les vivres.
On met à l'abri la population et tout ce qu'on peut dans des enceintes fortifiées, et on crame le reste. Comme le dit Du Guesclin lui-même,
mieux vaut pays pillé que terre perdue.
Et ça marche. Harcelés, épuisés, les envahisseurs anglais négocient plusieurs trêves. C'est une guerre par intermittence, ce qui permet à Du Guesclin de récupérer encore quelques places fortes. Du côté de la Bretagne, le roi de France Charles V en a assez de ce duché turbulent dont le duc Jean de Montfort s'est tourné vers l'Angleterre. En décembre 1378, c'est la fin de la récré. Fini le fest-noz. Il annexe le duché au domaine royal, carrément. Mais cette fois-ci, Charles V, le sage, a commis une bourde. Toute la noblesse locale, attachée à l'identité bretonne, se rallie à la couronne anglaise. En août 1379, Montfort, exilé en Angleterre, débarque à Dinard. Acclamé partout, il reprend vite le contrôle de son duché. Bien entendu, on envoie Du Guesclin et Olivier de Clisson pour faire cesser cet affront. Mais pour le natif de Bron, pour le Breton, quel dilemme ! Comment rester fidèle au roi sans se battre contre ses compatriotes bretons ? Désespéré, il pense alors à rendre son épée de connétable. Surtout qu'à la cour, ses hésitations, ses flottements font jaser. Tous les courtisans que Bertrand méprise en font leur gorge chaude.
Regardez donc notre connétable qui hésite. Définitivement, c'est un Breton. Il va trahir notre cause. Du Guesclin se sent coincé. Mais heureusement, le roi Charles V comprend alors son erreur. Il négocie avec Jean de Montfort et fait changer d'air à son connétable. C'est à présent un soldat de presque 60 ans, couturé de partout, que le roi envoie en Auvergne. En cet été 1380, il dresse le siège devant Châteauneuf de Randon, tenu par une troupe d'Anglais et de Gascons. Et cette petite carcasse que des centaines d'ennemis n'ont jamais su terrasser, c'est finalement la dysenterie qui va en venir à bout. Il tombe soudainement malade et le 13 juillet, à bout de force, il demande son épée de connétable. En la pressant contre lui, il soupire.
« Recommandez-moi au roi Charles et rendez-lui cette épée de ma part. »
Puis, veillé par ses compagnons d'armes, il s'éteint. Quelques jours plus tard, les assiégés de Châteauneuf de Randon déposeront les clés de la place sur son cercueil. L'émotion est immense dans la population. Charles V pleure son bras droit et fait procéder à 4 enterrements. Ses viscères au Puy-en-Velay et à Clermont, son cœur à Dinan et surtout son squelette dans la basilique de Saint-Denis. Le royaume de France lui offre ainsi une sépulture dans le cimetière le plus prestigieux du pays, la nécropole des rois de France. Entre alors dans la légende celui qui a reconquis le royaume. Sous la plume du chroniqueur Cuvelier et de son poème de 24 000 vers, il deviendra même un mythe. Et ainsi, dans cette forêt légendaire et enchantée de Brocéliande où il a vu le jour, il dut bien y avoir quelques fées pour se pencher sur celui qui, né crapaud,